J'aimerais voir une autre facette, un autre aspect du jeûne et de la prière. J'aimerais que l'on voie cet aspect jeûner et prier dans l'adversité. C'est le chemin de la bénédiction. Et on ouvre ensemble le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20 et au verset 1er. Alors ce récit, on va le partager en deux parties. Il y a tellement de choses à voir qu'on va le faire, on va le traiter en deux soirs, ce soir et demain soir, ce qui nous permettra d'avoir un maximum de temps pour la prière. Vous avez trouvé 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er. Les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. » Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. On lira la suite du récit, on méditera d'autres pensées demain soir. Mais ce soir, j'aimerais commencer avec vous. Jeûner et prier dans l'adversité, c'est le chemin de la bénédiction. Le but ce soir, évidemment, ce n'est pas de parler de l'épreuve, des raisons de nos épreuves, de la nécessité de l'épreuve ou des objectifs que Dieu se fixe, nous fixe dans les épreuves. Ce serait beaucoup trop long. On sait simplement, on se rappelle que les épreuves sont indispensables. L'épreuve, ça fait partie de la vie chrétienne. Tout, absolument tout dans la vie chrétienne doit être testé. Comme dans la vie humaine, tout, absolument tout doit être testé, c'est normal. Et on sait pertinemment qu'avec les différentes sortes d'épreuves, les différentes intensités d'épreuves, nous savons que l'épreuve est un moyen entre les mains de Dieu pour nous faire grandir. Et c'est ce qui va se passer pour le peuple, parce que de cette crise va jaillir une grande bénédiction. Il y a des situations qui sont comme des montagnes, et pour Josaphat, il est face à une coalition de rois, il n'a pas une armée, il n'a pas un problème, il n'a pas deux problèmes, il a trois problèmes, il a en même temps une coalition de rois, une coalition armée qui se met en marche pour lui faire la guerre. Il y a des fois des gens qui se disent « Mais pourquoi j'ai des problèmes ? Je pensais qu'en étant chrétien, j'aurais plus de problèmes. » Tu es dans un combat spirituel, c'est normal. Et il y a des situations que Dieu permet, on va le voir, soit pour nous amener, nous ramener, ou parfois simplement pour nous maintenir à ses pieds. Parce que ça a été le cas pour Josaphat et pour le peuple, face à cet immense ennemi qui était devant lui. Josaphat a eu peur. Et Josaphat, il a publié un jeûne pour lui et pour tout le peuple. Alors, oui, c'est normal. Moi, ça me fait un petit peu plaisir quand je vois des hommes de Dieu qui ont eu peur. Ça me rassure sur le fait qu'il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de super-chrétiens, il n'y a pas de super-pasteurs. On voudrait des fois que tout le monde soit toujours en permanence sur un espèce de petit nuage là-haut, machin, où rien ne peut m'atteindre. Par la foi, oui, mais j'ai quand même bien les pieds sur terre et je sais dans quel monde je vis aussi. Même si le ciel est dans mon corps est bien sur terre, il n'y a pas de problème. C'est effrayant humainement parlant, ça sent le danger, ça sent la faim, ça sent la mort. Mais vous savez, frères et sœurs, avec le Seigneur, on peut passer par le danger, mais du moment qu'on est à ses pieds, on n'est pas en danger. On passe par le danger, mais nous ne sommes pas en danger. Du moment qu'on est à ses pieds, du moment qu'il est là. On a l'impression qu'on est en danger. En vérité, on y passe quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais en vérité, du moment que je suis à ses pieds, je ne crains rien. Je ne suis absolument pas en danger. J'insiste, c'est pas quand tout va bien dans nos vies qu'on est en sécurité. C'est quand on est à ses pieds. Les circonstances n'ont rien à voir. C'est pas quand tout va bien que je suis en sécurité. C'est quand je suis réellement à ses pieds. Alors, c'est normal d'avoir peur, parce que oui, nous gardons une dimension humaine, c'est la preuve que nous sommes conscients que des situations nous dépassent, mais si c'est normal d'avoir peur, il ne faut pas rester dans la peur. La peur ne doit pas s'installer. La peur, on le sait, c'est une arme de l'ennemi. Quand vous avez peur, vous le savez, la peur vous vole votre joie, elle vous vole votre paix. Elle peut aller même jusqu'à l'assurance de votre salut, tellement elle veut tout prendre. Elle vous vole votre sommeil, elle accapare toutes vos pensées, elle vous paralyse, elle vous empoisonne, elle vous aveugle. La puissance de la peur, c'est extraordinaire. La peur, c'est vraiment une puissance d'aveuglement. Elle nous aveugle sur Dieu, sur son action, elle nous aveugle sur les circonstances. Si vous regardez les circonstances avec la peur, c'est comme des loupes grossissantes. Vous voyez toujours les circonstances plus grosses qu'eux. Elles ne sont en réalité. Ça déforme. La peur a un effet déformant. La peur vous fait faire n'importe quoi. La peur vous fait faire un pas en avant quand il faudrait rester tranquille. La peur vous fait faire un pas en arrière quand il faudrait faire un pas en avant. La peur, c'est toujours une mauvaise conseillère. Alors, avoir peur, avoir des moments de frayeur, c'est normal. Mais la peur ne doit pas s'installer. Et ce qui me plaît chez Josaphat, c'est un homme très intelligent, parce que Josaphat, la première chose qu'il a faite, c'est d'avoir recours au jeûne et à la prière. Et quand je lis ça, je me pose la question à moi, et je me permets humblement de vous la poser, jeûne et prière, premier secours ou dernier recours? Le problème, frères et sœurs, c'est que le jeûne et la prière sont souvent notre dernier recours, au lieu d'être notre première réponse, au lieu d'être une norme de vie, d'être une discipline de vie, un exercice de vie, d'être une façon de vivre. C'est une discipline, disciple, discipline, discipula, discipline. On essaye de gérer les situations avec nos pauvres moyens humains. On essaye d'éteindre un incendie de forêt avec un extincteur. Et puis une fois que tout a bien brûlé, on appelle les pompiers. On appelle le Seigneur, on va vraiment prendre des mesures spirituelles drastiques, le jeûne et la prière. Et je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à sauver, mais bon, combien il y a eu de dégâts malheureusement, combien de dégâts est-ce qu'on aurait pu éviter? Si le jeûne et la prière étaient non pas un dernier recours, mais une réponse, un premier secours, un réflexe, une première réponse. Beaucoup de gens, je le dis malheureusement, beaucoup de chrétiens, on parle de chrétiens, hein, beaucoup de chrétiens laissent des situations dans leur vie se dégrader. On cherche à gérer les situations. Mais quand il a vu l'ampleur du phénomène, Josaphat a été cet homme intelligent qui cherche Dieu. Il a eu du bon sens. La première chose qu'il a faite, ce n'est pas de chercher des solutions. Il n'a pas cherché des réponses. Il n'a pas cherché des appuis humains. Il n'a pas cherché des sous pour engager une nouvelle armée. Non, il a cherché Dieu. Premier secours, première réponse, réflexe spirituel, l'intelligence de l'homme qui cherche Dieu. Ce qui me plaît dans le jeûne et dans la prière, c'est que je sens aussi un jeûne de réaction et d'engagement. C'est normal de réagir. Encore une fois, le problème, c'est que souvent, nous réagissons mal. Nous devons apporter la réponse du jeûne et de la prière comme réaction face à la situation et face à la peur. Ce jeûne, c'est vraiment un jeûne de réaction et d'engagement. Je réagis, mais je ne réagis pas n'importe comment, parce que oui, on réagit tous. Je réagis par le jeûne et la prière. Je réagis spirituellement à un problème que je sais de toute façon être spirituel, même s'il a une dimension pratique humaine. Je sais que derrière, c'est du spirituel. Donc, j'apporte une réponse, je réagis spirituellement à des problèmes spirituels. C'est une façon, quand je me mets devant Dieu, de dire « Seigneur, je refuse de vivre dominé par cette situation. » Non, il n'y aura pas de statu quo. Cette situation, elle n'est pas normale, elle n'est pas à ta gloire, il faut que ça dégage. Non, il n'y aura pas de statu quo. Je refuse de vivre dominé par cette situation. Je refuse de vivre dominé par la peur. Je refuse de me laisser envahir par les circonstances. Pardon, hein, mais souvent, face aux circonstances, soit on réagit mal, soit, pardon, mais on est mou et archi-mou. Et on se laisse grignoter et grignoter encore. Il faut comprendre que dans le jeûne et la prière, il y a quand même une détermination. Je veux dire, il faut vraiment en vouloir, il faut avoir quelque chose dans les tripes, il faut y aller, il faut se bouger, il faut se déterminer, il y a de la hardiesse, il y a quelque chose, il y a de la niaque. Jeûner et prier, c'est vraiment se déterminer, c'est une façon de prendre position face aux œuvres de l'ennemi, face à des situations contraires, face aux menaces, face à la peur. C'est une façon de prendre position, et c'est une façon, en prenant position, de dire « je refuse de vivre dominé par la peur et par mes circonstances ». Parce qu'il y a certaines situations qui ne se règlent que par l'arme excellente et toute puissante du jeûne et de la prière. Pourvu qu'il soit toujours pratiqué dans les conditions bibliques, je ne reviens pas dessus, on en a largement assez parlé. Je refuse de vivre dominé par la peur et par les circonstances. Je refuse, c'est une façon de prendre position, je refuse de me battre contre des situations qui me dépassent. Il y a des moments où il faut arrêter. Il faut arrêter de se battre contre des situations qui nous dépassent et de loin. Je prends position, je m'engage, je prends position contre les circonstances, contre la peur. Je prends position aussi contre moi-même. Parce que mon plus grand ennemi dans l'histoire, ce n'est pas la coalition de rois qui arrive. Le vrai problème, c'est moi. Je suis mon pire ennemi. Mon pire ennemi, ce n'est pas le diable. Mon pire ennemi, c'est moi, ce sont mes réactions, c'est la façon dont je vais gérer certaines situations qui vont faire que finalement je vais aggraver la situation ou permettre à Dieu de la régler pour moi. Mais mon pire ennemi, c'est moi, je prends position contre moi, je prends position contre les compromis qui pourraient se présenter à moi. Le papa de Josaphat, il s'appelle Asa, vous irez lire son histoire, les appuis humains, ça peut coûter extrêmement cher, hein. Il a tout perdu, Asa. Je prends position pour la solution que Dieu tient dans sa main. Une solution que je ne connais pas encore, parce que sinon ce ne serait pas de la foi. Mais je prends position. J'ai un Dieu tout-puissant, j'ai un héros qui combat pour moi. Il y a une multitude de textes qui me montrent dans la parole que Dieu se plaît à intervenir. Il se révèle comme un héros puissant, il se présente à Josué avec son épée dégainée à la main, il se présente en héros qui combat pour moi, il défend ma cause, il défend mon droit, il est tout puissant, il est prêt à intervenir, il est l'éternel des armées en deux mots évidemment. Je me range sous la bannière de l'éternel des armées, je prends position. Pardon, il y a des moments quand on regarde la façon dont on vit, dont on réagit devant les situations, comment on est totalement défait et sans ressources, on a l'impression qu'on vit avec le Dieu désarmé, en un seul mot. Le pauvre Seigneur, il est complètement largué, quoi. J'ai raison de m'inquiéter, le pauvre Seigneur, il ne peut plus rien faire, quoi. Non, non, je prends position pour l'éternel des armées. C'est lui qui va combattre pour moi. Jeûner et prier, c'est aussi un excellent moyen de lâcher prise. J'ai une tendance à vouloir tout gérer. Il faut que je comprenne tout. Il faut que je maîtrise tout. Il faut que je tienne tout dans ma main. Il faut que j'ai toujours le volant de la voiture. C'est toujours moi qui conduis. Il faut que je gère. Il faut que je comprenne. Il faut que je maîtrise. Il faut que j'analyse. Il faut que je rationalise. Et il faut que, de toute façon, je gère. Jeûner, c'est un excellent moyen de lâcher prise. Je disais hier que Dieu a soif de nous parler, il désire nous parler. C'est sa joie, c'est sa joie, c'est son plaisir, c'est son cœur de père de nous parler, de se révéler. C'est aussi sa joie, c'est son cœur de guerrier, de se bagarrer. L'Éternel des armées monte au combat. Il agit à main forte, à bras étendus. Il est un puissant héros qui sauve et Dieu a envie de se montrer fort. Vous prenez un super cycliste et vous l'enfermez dans un coin, il devient fou, là, le sportif, il a envie. Il faut que ça bouge, il faut qu'il fasse quelque chose. Vous prenez un bricoleur, vous savez les gens qui aiment toujours bricoler des trucs comme ça là chez eux. Il y a des gens, ils bricolent tout le temps, ils ont de l'or dans les mains, ils font toujours... C'est plus fort qu'eux, il faut toujours qu'ils trouvent un truc à bricoler même s'il n'y a rien à bricoler. Parce que c'est leur cœur, ils sont comme ça. Eh bien Dieu, il a envie de se battre pour toi. C'est son cœur de guerrier. Dieu veut se montrer fort. Il se plaît à nous conduire vers sa bénédiction. Il aime intervenir. Il aime agir. Il aime montrer sa gloire. Il aime se révéler. Il aime montrer sa puissance. Il aime affirmer et révéler sa grandeur. Parce que c'est ce qu'il est par nature. Il veut montrer ce qu'il est. Il veut se manifester. Il veut délivrer. Il a soif de pouvoir délivrer, de pouvoir agir. Et Dieu, pardon, Dieu est le Dieu de l'impossible. Et Dieu s'ennuie dans nos sphères de possible quand on le relègue au rôle de vieux papa gâteau dans le ciel qui sera juste bon à nous balancer une bénédiction quand on estimera qu'on en aura besoin. C'est pas ça la vie chrétienne. Il a besoin de se manifester. Dieu a un terrain de jeu. Et son terrain de jeu s'appelle l'impossible. C'est le seul terrain sur lequel il peut à peu près ne pas trop s'ennuyer. Parce que même ce que nous on appelle impossible, pour le Dieu qui a créé les cieux et la terre par sa parole, nos problèmes, vous savez... Et Dieu est étriqué dans nos sphères de possible, il est étriqué dans nos raisonnements. Quand nous voulons tout gérer, quand nous l'avons enfermé dans le coffre de la voiture, ou que nous lui avons bien mis sa ceinture sur le siège passager, « Seigneur, t'inquiète pas, je gère. Toi, t'es l'assureur. Tu bénis. Tu assures, tu bénis, tu fais en sorte qu'il ne se passe rien. Hop, s'il y a un petit couac, hop, tu me règles ça. T'es l'assureur. Attache ta ceinture, c'est moi qui conduis. » Jeûner et prier, c'est un excellent moyen pratique de lâcher prise. Je vais abandonner les faux combats, je vais m'abandonner moi-même, selon ce qu'on a chanté tout à l'heure. Je vais arrêter de tout contrôler, je vais enfin pouvoir remettre Dieu à sa place et moi à la mienne. Et dans ce temps de jeûne et prière, tout est centralisé, tout est focalisé, tout est redirigé sur Dieu, sur sa puissance, sur sa souveraineté, sur sa grandeur, sur sa présence, sur sa fidélité, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, tout ce qu'il est. Et là, dans le jeûne et dans la prière, on est très loin du « Seigneur, bénis ça. Seigneur, donne-moi la force de. Seigneur, aide-moi à faire ça. » On peut le faire, ce n'est pas un problème. Mais là, on passe dans des dimensions différentes, on passe dans des dimensions nettement supérieures. Je vais être obligé de tout relâcher, de tout abandonner, y compris moi, et je vais laisser ma place de petit chef. Je vais remettre Dieu à sa place de souverain, sa place sur le trône, sa place de conducteur, et moi, je vais me remettre à ma place sur le siège passager, voire même derrière, en disant « Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, fais en sorte que je ne te dérange pas trop dans tes œuvres. » Si je pouvais, Seigneur, ne pas trop te déranger, mais au contraire favoriser ton œuvre, ce serait super top. Et là déjà, je suis béni. Jeûner et prier, c'est un acte de foi. J'ai juste effleuré la question hier, puisque Jésus dit « Ton Père te le rendra ». Jeûner et prier, c'est un acte de foi. Déjà que je lâche prise, c'est déjà pas évident, mais en plus, dans le jeûne et dans la prière, je vais perdre un petit peu plus de moi. J'ai déjà pas de solution, mais au lieu de m'agiter pour en chercher, je vais capituler, je vais m'abandonner, je vais plus loin aux pieds de Dieu, c'est un acte de foi, et je vais être encore plus faible que je ne suis déjà. Parce que déjà que je suis faible par rapport à la situation qui me domine, j'ai déjà pas de solution. Mais en plus, je vais être faible physiquement. Parce que vous savez très bien, si vous pratiquez le jeûne régulièrement, que quand on jeûne, des fois on a un petit peu froid, on commence à avoir des petits coups de barre, des fois on a un petit maux de tête, un petit machin, l'estomac rouspète. Et en plus de ne pas avoir de solution, d'être faible face aux situations, j'ajoute une fatigue physique, j'ajoute une faiblesse physique à la faiblesse existante dans les situations. La foi n'est pas rationnelle, quelque part c'est fou ce que Josaphat est en train de faire. Mais jeûner et prier, c'est un pur acte de foi. Puisque dans ce moment-là, je ne m'occupe de rien si ce n'est de lui, du Seigneur, et puisque je vais être encore plus faible que je ne le suis déjà en jeûnant. Mais Jésus a dit, et ce n'est pas les circonstances qui me dictent ma conduite, ce ne sont pas mes pensées, ce n'ont pas les pensées du frère un tel, de la sœur une telle, ou de mon mari, ou de je ne sais pas qui, ce ne sont pas les circonstances ni les pensées des autres, ce ne sont pas mes émotions, ce ne sont pas mes sentiments, ce ne sont pas mes impressions, c'est la parole de Dieu qui me conduit et qui me dicte ma conduite. Et la parole de Dieu me dit, ton Père te le rendra. Comme on l'a dit hier soir, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Ça, c'est son problème à lui. Mon problème, c'est de me tenir devant lui. Mon problème, c'est l'acte de foi. Mon problème, c'est de croire. Mon problème, c'est la confiance. Mon problème, c'est de lâcher prise. Mais le quand et comment il va agir, je ne sais pas, c'est son problème à lui. Mais il va agir, c'est obligé. Et tant que je ne libérerai pas la place, tant que je ne vais pas me pousser, tant que je ne vais pas faire place nette, parce que, en vérité, le problème du Seigneur dans ma situation, ce n'est pas le problème qui est en face de moi. Le problème, c'est moi. Pousse-toi. C'est toi qui es dans le passage, tu m'empêches d'agir. Avec tes mots, avec tes pensées, avec tes coups de téléphone, avec tes raisonnements, avec tes conversations à plus en terminer. C'est toi qui fais obstacle. Tais-toi, pousse-toi. Je ne sais pas comment te le dire, mais dégage de là, tu gênes. Tu gênes. Pousse-toi. C'est moi qui empêche le Seigneur de faire son œuvre. Ce n'est pas la coalition de rois et demi. Le jeûne et la prière, c'est un excellent moyen de démontrer sa foi. La foi est une démonstration. C'est une ferme assurance. Quand, comment il va agir, c'est son affaire, mais il va agir. Et moi, je fais place nette, je me pousse et je le laisse faire ce qu'il a à faire. Josaphat, verset 3, dans sa frayeur, se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne. Ici, c'est évident, le jeûne et la prière avant toute chose ont pour but de chercher Dieu. C'est un excellent moyen de chercher Dieu. Josaphat n'a pas jeûné pour trouver des solutions. Des fois, quand on prie, on cherche des solutions. Je sais que des solutions, il y en a. Je cherche Dieu. C'est d'abord un élan du cœur, une orientation vers le Seigneur. Je ne cherche pas des solutions. Je ne cherche pas des réponses, je ne cherche pas des guérisons, même si je sais qu'il y en a. Je ne cherche pas des bénédictions, je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Ça nous ramène, et bientôt la boucle est bouclée, demain c'est le dernier message. Prochaine session de 3 jours, promis on change de sujet. Je vous parlerai d'autre chose. On laissera le jeûne et la prière pour un temps, on va laisser mijoter. Mais la boucle est bouclée. On en revient à cette grande question qui était notre point de départ au tout premier message. Mais Dieu dit, mais est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné? Et là, on s'aperçoit que Josaphat, il a jeûné pour Dieu. Il a jeûné pour chercher Dieu. Je jeûne et je prie parce que je veux le rencontrer tout à nouveau. Je veux le connaître mieux, comme on l'a chanté. Je veux le vivre mieux. Je veux le vivre mieux. Je veux mieux le rencontrer, mieux le connaître. Je veux mieux vivre de sa vie. Je veux être enrichi de lui. Seigneur, ce que je veux, ouais, il y a des gros problèmes, mais ça encore, c'est secondaire. Seigneur, ce que je veux, c'est plus de toi. C'est ça la démarche du jeûne. Je veux plus de toi. Je veux plus de ton cœur. Que je l'ai mis là-haut. Je veux plus de ta personne, je veux plus de ta vie, je veux plus de ton cœur, je veux plus de tes attributs. Seigneur, ce que je veux, c'est plus de toi. Je vais pouvoir te rencontrer tout à nouveau, te connaître mieux, je vais pouvoir te vivre mieux, toi, Seigneur. Et quand je commence à rencontrer Dieu et avoir ce contact de cœur, ce contact de foi avec lui, les choses commencent à changer à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur, d'abord à l'intérieur. La tristesse, qui est certes légitime, dans des situations, oui, il y a des situations où on est triste, c'est légitime, mais je ne vis plus dominé par la tristesse. La tristesse s'en va, la joie revient, la peur disparaît, le courage revient. Quand tu jeûnes, quand tu pries, tu es plongé dans la parole, tu as une communion avec l'Esprit de Dieu, le doute s'enfuit, tes pensées comme un brouillard, tes pensées s'éclaircissent. Et c'est ce que je vous avais enseigné avec le prophète Daniel à un moment. Le doigt de Dieu, le Seigneur l'Esprit, va pouvoir réinscrire, il va pouvoir réécrire des promesses dans ton cœur, des promesses qui étaient lointaines, des promesses que tu avais oubliées, des promesses qui n'avaient plus de saveur, des promesses qui ne te faisaient plus vibrer. Peut-être simplement des promesses qui doivent reprendre vie en toi, des promesses qui doivent redevenir réalité dans le cœur. L'incrédulité s'enfuit, la foi s'enracine, la foi s'affermit, le doute s'enfuit, les promesses reprennent vie. La victoire et l'œuvre de Dieu passent d'abord par l'intérieur. Et dans ce moment-là, avant de changer les circonstances, c'est moi qui vais être changé. Moi d'abord. Moi d'abord. Vous n'avez jamais le droit, frères et sœurs, c'est égoïste, vous n'avez jamais le droit de dire « moi d'abord ». Sauf dans le domaine du changement et de la transformation. S'il y a 100 personnes dans l'église à changer, vous dites « Seigneur, moi d'abord ». Là, ça c'est bon, c'est pas un problème. Vous savez, frères et sœurs, tout ça, ça nous amène quand même à des questions de fond. Parce que je vois quand même, on en reparlera plus tard un de ces dimanches, que lorsque Jésus était sur la montagne, pendant qu'il priait, il n'était même pas en train de jeûner, on parle juste de la puissance de la prière. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. La puissance de la prière, la puissance du jeûne et de la prière. Pardon, frères et sœurs, je vais très clairement, sans méchanceté, vous me connaissez. Si quand je prie, si après avoir prié, je ne suis pas transformé, si je ne suis pas différent, il faut que je me pose des questions sur ce que j'appelle prière. Il y a un souci. La vraie prière, elle transforme d'abord le cœur de celui qui prie. Le jeûne et la prière transforment d'abord le cœur de celui qui se tient devant Dieu pour le chercher, pour jeûner et prier. Le jeûne et la prière changent d'abord l'intérieur. C'est dans cet état d'esprit-là que je dois venir en disant « Seigneur, il faut que ça me change moi d'abord, avant de changer les autres, les temps, les circonstances, les situations, les difficultés, les problèmes ou je ne sais quoi. La prière et le jeûne doivent me changer, moi premièrement. » Le jeûne et la prière ne doivent pas être ton dernier recours, mais doivent être ta première réponse. Le jeûne est un jeûne de réaction et d'engagement face à des situations. C'est une prise de position pour l'Éternel des armées. Le jeûne et la prière, c'est une façon de lâcher prise. Le jeûne et la prière, c'est un authentique acte de foi. Le jeûne et la prière sont là pour t'amener à chercher Dieu et à le trouver lui, avant de trouver toute autre forme de bénédiction. Parce que la bénédiction suprême, ce sera toujours sa présence dans ton cœur. Alléluia.